des réflexions sur ce qui se passe, autant dans la vie des disciples d'abord, et ce qui leur arrive. On a vu la dernière fois ensemble que Jésus, une première parole que Jésus leur dit dans Marc chapitre 4, verset 35, pour ceux qui possèdent encore une Bible et qui attendent pas. Ça affichera pas parce que j'ai pas de PowerPoint et j'en fais pas parce que souvent ça arrive que ça bloque, ça fonctionne pas. Fait que je me suis dit, moi je suis vintage, je vais être à l'ancienne. Donc, dans Marc chapitre 4, verset 35, ça dit ceci. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Allons donc l'autre bord. Et il y avait, je sentais là-dedans que Jésus nous lançait un défi d'aller plus loin, d'aller l'autre bord. D'aller des fois dans des endroits qui nous sont sans doute fort peu connus. Et pourtant, et dans ce contexte-là, les disciples vont s'engager dans une barque, plusieurs barques, et vont traverser la mer. Donc, ce n'est pas un endroit qui leur est inconnu. Ce n'est pas un endroit pour eux qui leur était inconnu. Pour nous, la question à se poser dans « aller l'autre bord », c'est « est-ce que le Seigneur m'appelle? Est-ce que le Seigneur me demande? Est-ce que le Seigneur m'appelle à quelque chose d'autre? » Donc, à aller l'autre bord. C'était ça un peu la question sur laquelle on était resté la dernière fois. Seigneur, m'amènes-tu à aller plus loin dans ma marche chrétienne, dans ma vie chrétienne, dans mes ministères même, ceux que j'exerce à l'Église ou autrement? Et j'ai beaucoup de livres. Et donc, dans le second tableau, Jésus et ses disciples donc vont partir. Ce qu'on apprend, c'est que au verset 36 à 40, donc ce qu'on lit là, c'est le défi de la traverse. Le défi de la traverse. C'est qu'une fois que tu as accepté le fait d'aller plus loin, on lit ceci, après avoir renvoyé la foule, parce qu'on comprend que et c'est la nuit, c'est le soir, et Jésus a enseigné pas mal, il a guéri des gens, et là, il y a plein de ministères, et les disciples renvoient la foule, et ils prennent une barque, ils l'assoient dans la barque, ils assoient Jésus, bien sûr, dans la barque où il allait se trouver, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ce qui est intéressant avec cet élément du passage-là, c'est comment... Quand, d'un fois, on a l'impression qu'on part dans une nouvelle direction, qu'on n'y va pas nécessairement seul. Et qu'on peut être beaucoup d'autres, plusieurs, à s'engager dans une nouvelle direction. Puis que Jésus nous invite à cela. Et donc, dans ce court passage-là, on apprend que Jésus, lui, a été assis. On l'a assis sur un petit coussin même, parce qu'on va voir le petit coussin un peu plus tard. Mais on a assis Jésus dans la barque et il part. Plusieurs barques partent pour traverser cette grande traverse. Dans ce défi-là que les disciples ont accepté de relever, de partir avec lui un soir comme ça, et c'est sans doute ce qui nous interpelle, nous autres aussi, c'est qu'est-ce que tu attends du défi que Jésus te lance d'aller plus loin? Qu'est-ce que tu attends du défi que Jésus te lance d'aller plus loin? À quoi va ressembler ta traverse? Ce moment-là où tu t'en vas et tu décides, Seigneur, OK, j'accepte de relever un défi, j'accepte de relever, de prendre un nouveau chemin pour toi, mais je ne sais pas ce que cette route-là va contenir. Je vous avais mentionné la dernière fois ce passage-là dans Josué où Josué est invité à laisser passer le tabernacle devant parce que c'était un chemin que, il dit, elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre car vous n'avez pas encore passé par ce chemin, un chemin nouveau par lequel vous n'avez pas encore passé. D'où l'importance de laisser le tabernacle passer en premier. Autrement dit, Dieu a été en premier. Et les disciples partent et ils vont traverser ce chemin, ils vont traverser cette rivière et ils partent avec Jésus qui leur donne ce commandement-là, pas ce commandement, mais cette demande-là, allons de l'autre bord et ils vont faire cette traverse. À quoi je m'attends quand Dieu me demande de m'engager dans un nouveau défi? À quoi je m'attends? Et souvent, peut-être un peu comme les disciples vont le voir après, ce qui va se présenter devant eux, et l'histoire va nous le raconter, que soudainement, verset 37, un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque. Donc, on comprend qu'il y avait d'autres barques, mais c'est en particulier celle où se trouve Jésus, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Vous avez parlé du coussin. Hein? Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Donc, la traverse dans laquelle les disciples s'engagent, dans laquelle ils sont en train de partir, dans laquelle ils sont en train d'aller l'autre bord, bien, ils rencontrent une tempête sur leur chemin. Ils rencontrent un défi sur leur chemin qui remet en question leur expertise, qui remet en question leur expérience, qui remet en question ce qu'ils ont vécu jusque-là, au point où ils en oublient un peu c'est leur vie là, qui est en jeu. C'est leur vie qui est en jeu et ils ont peur. Et ils ont peur. J'ai remarqué au fil de mes quelques années de vie pastorale que beaucoup de gens, je ne sais pas, je vais peut-être lancer un sondage, beaucoup de gens qui désirent s'engager pour le Seigneur, autrement dit, quitter la rive pour aller l'autre bord, beaucoup de gens qui souhaitent s'engager dans un défi de foi, c'est pas très long qu'après ou pendant que des choses dans leur vie commencent à aller mal. Il y a toutes sortes de choses, d'empêchements qui se manifestent, il y a toutes sortes de situations qui se présentent, que lorsqu'on souhaite s'engager pour le Seigneur, il y a souvent plein d'embûches personnelles ou autres qui se manifestent afin d'éteindre cette ardeur. L'ardeur du départ qui était là, qui était de s'engager pour le Seigneur dans quelque chose, vient tout à coup manger une volée, une claque. Okay? Donc, elle vient s'éteindre. Ma question pour nous, c'est est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ce type de Moi, j'ai déjà vécu ça. Là. Ouais, Bill, d'autres ont déjà vécu ça? Anne? Oui, bon, oui. Et là, soyez pas gênés. Bill, veux-tu venir nous en parler un petit peu? Non, mais on a fait ça la semaine passée, donc viens, Bill, viens. Viens nous donner un petit contexte de ce que tu as vécu à ce moment-là. Ah oui, bien, viens, deux minutes.
Non, pas de détails, mais juste. C'est sur mon cœur de vraiment m'engager. J'ai à cœur l'évangélisation, on peut dire ça franchement, OK? Je ne me considère pas comme un évangéliste, mais j'ai à cœur ça, OK? Et je prie le Seigneur pour beaucoup de moyens de faire connaître Jésus-Christ à travers de toutes sortes de choses, OK? Et il y a des tempêtes qui arrivent dans ma vie, dans notre vie personnelle, on peut dire ça comme ça. Et mon épouse est très au courant de ça. Là, c'est pas des mauvaises choses pour moi ou pour mon épouse, mais c'est, je vois ça comme des obstacles, comme une grosse tempête. Okay? Mm-hmm. Et je pose des questions. Est-ce que c'est un empêchement pour moi d'aller plus loin? Mm-hmm. Je vis ça présentement, mais c'est ça, oui.
Merci, okay. Merci, Bill. Ben voilà, voyez-vous, c'est comme ça que ça se présente, que ça vient s'imposer comme une série de questionnements sur l'engagement premier. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Comment je vais gérer ça? Quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Qui avait dit oui? Enfin, moi, j'ai vu surtout là mais quelqu'un d'autre qui a levé la main qui a dit, moi, ça m'a empêché je voulais m'engager, mais ça m'empêche. J'ai l'impression que Carline voudrait dire quelque chose. Mais c'est vrai, Carline, hein? Carline, viens.
Non, mais ça se sent, des fois, ça se sent.
oui. Beaucoup de fois, pour moi, c'est pour l'évangélisation aussi. Et des fois, et je sens toujours que Dieu m'appelle pour évangéliser, mais il y a toujours une certaine réticence. Donc, beaucoup de fois, je prie, je dis, Seigneur, je sais quand tu appelles, tu... et forme la personne, tu donnes des outils. Donc, jusqu'à présent, donc, c'est un point d'interrogation. Ben, c'est ça, donc, et prêcher la parole aussi pour Dieu. Donc, et j'aime ça, j'aimerais m'aventurer plus, mais il y a toujours un défi. Donc, c'est ça, donc, je reste dans la prière pour que Dieu et me donne plus d'explications, des informations claires. Des fois, on en a, mais on veut attendre toujours. Donc, c'est ça. Des fois, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je laisse passer du temps? Et il y a des choses que j'aimerais faire pour toi, et puis le temps passe. Donc, j'aimerais, pendant que j'ai la force, agir, accomplir quelque chose pour toi. Donc, c'est ça.
Wow. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose que de sentir dans notre cœur qu'on veut accomplir plus pour le Seigneur. On souhaite accomplir plus pour le Seigneur, mais tout à coup, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe autour de nous, autour de nous. Et dans le cas des disciples ici, on sent que bon, le vent se lève, la tempête pogne, comme on dit. Et la tempête pogne, mais il y a deux éléments dans une tempête. Qu'on peut souligner, c'est que la tempête peut se déclarer autour de toi. Les événements autour de toi peuvent se soulever, toute une série d'événements qui vont te troubler, qui vont faire en sorte que mais ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Que la peur va te prendre, okay? Que la peur va te saisir. Par contre, ça peut aussi, et donc empêcher cette flamme-là, ce feu-là, cette ardeur-là, cette passion-là de se matérialiser. Ou encore, c'est une tempête que tu provoques. Ça peut être aussi une tempête que tu provoques. Et là, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, ici, les disciples vivent une tempête en tout cas, elle semble avoir une origine probablement satanique dans la façon dont ça se déclare subitement et tout à coup, et la façon dont Jésus répond à ça. On reviendra. Mais il y a parfois aussi des tempêtes dans lesquelles tu te retrouves par ta propre faute, par ton propre choix, par tes propres désirs malsains. Donc, ces tempêtes-là, il faut aussi les mettre à la bonne place. Elles viennent définitivement tuer l'ardeur de ce que tu veux accomplir. J'ai vécu ça pas mal. Et le Seigneur vient prendre sa place. Ce que ça a fait, donc le défi de la traverse, on peut choisir ensemble puis dire en tant qu'Église, on veut Jean-Cras, on veut évangéliser ci, on veut évangéliser ça. Et là, je nous parle en tant que frère dans notre communauté, dans notre famille. On veut ça, on veut faire ça. Mais peut-être qu'on était sur le bord et on a dit, ouais, OK, on va y aller l'autre bord. on va y aller l'autre bord, on va relever le défi, on y va ensemble, on y va ensemble. Puis tout à coup, alors qu'on embarque, on met Jésus dans le bateau, puis on s'en va. Mais tout à coup, à l'intérieur de ça, se révèle une tempête qui me fait dire, Seigneur, est-ce que tu es en train de t'inquiéter qu'on va périr? Donc, autrement dit, mon besoin personnel devient tout à coup un peu plus fort que ce que je pensais, les visions de quelque chose qu'on voulait faire ou on voulait imaginer. Puis même là, peut-être que les disciples ne savaient même pas pourquoi ils allaient l'autre bord. Peut-être, je ne sais pas si Jésus leur avait dit, mais lui, Jésus était fatigué puis s'est endormi sur le petit coussin, le fameux petit coussin. Et donc, il s'en va là. Ils s'en vont là, puis là, tout à coup, ils réalisent que wow, ça devient un peu plus gros, ça devient un peu plus vaste, un peu plus difficile que préalablement imaginer. Est-ce que je poursuis? C'est la question. Est-ce que devant le défi qui se présente, est-ce que j'abandonne ou je poursuis? Ça ramène, et là je vais partager un autre défi que ça souligne. On va en voir deux aujourd'hui, pour le prix d'un. C'est le défi de l'identité. Jésus se lève, il se réveille, il dit « coudonc ». « Coudonc », c'est une expression québécoise, ça veut dire « ben voyons donc hein. ».« Coudonc », il se lève, c'est assez, là, silence. Je ne prendrai pas ma voix de professeur parce qu'elle est plus forte. « Silence, tais-toi, le vent tomba et il y eut un grand calme. » Puis il leur dit à eux, pourquoi êtes-vous si craintifs? Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Et là, je me suis posé la question, ça veut-tu dire ça? Est-ce que ça voudrait dire que la barque n'aurait pas coulé parce que Jésus était là de toute façon? Mais qu'eux autres ont voulu prendre le contrôle, ils ont voulu faire comme eux ont pensé que c'était bon de faire, ils ont voulu prendre une sorte de contrôle. Seigneur, tu t'inquiètes pas qu'on est en train de périr. Peut-être qu'ils ont essayé de toutes sortes de leurs manières de pêcheurs, là, ils avaient des trucs, et ça n'a pas marché. Ça me rappelle le petit chant que j'ai montré à Pascal tantôt, puis il m'a dit qu'il ne savait pas, puis il m'a dit « je vais te passer ma guitare ». Et j'ai dit « non ». Mais le petit chat, il y en a plusieurs peut-être qui le connaissent, là, ça dit « si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. » Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit « allons de l'autre bord. » Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime. Il est le Tout-Puissant. Si un jour, sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute. Dieu prend soin de son enfant. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Et il est fort probable que la raison pour laquelle Jésus dormait sur le petit coussin, c'est parce que lui savait que la barque ne coulerait pas. Parce qu'il avait dit, allons de l'autre bord. Relevons, dans le fond, lui, il vivait à travers la tempête, à travers un défi de l'impossible, parce qu'on va y arriver à un autre défi, ça, plus tard. Un défi de l'impossible. Et c'est peut-être ce qu'on va voir demain avec les anciens, un défi de l'impossible. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va ci, qu'est-ce qui va ça. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais le défi d'identité que ça pose, c'est que les disciples ont pris soin d'embarquer Jésus dans la barque. Hein? Ils ont amené Jésus, là.
Il était fatigué et ils l'ont assis dans sa barque à lui.
Où était Jésus tout ce temps-là? Ben oui, mais il était dans la barque. Il était là. Il était dans la barque. Et ça pose la question sur quel est le Jésus qui t'accompagne dans le défi que tu acceptes de vouloir relever? Quel est, qui est ce Jésus-là? Et c'est ça qu'ils vont dire. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais c'est qui? Puis là, tu te dis, mais ils ne peuvent pas dire ça à ce stade-ci de leur vie avec Jésus. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas juste poser cette question-là comme s'ils ne le connaissaient pas, comme s'ils n'avaient pas vu faire les miracles, comme s'ils n'avaient pas manifesté, entendu son enseignement. Ça pose une question sur l'identité. Et moi, alors que je me lance dans une traversée, que je décide d'obéir, que je veux traverser, puis que j'affronte des défis, qui est Jésus qui est avec moi? Qui est ce Jésus qui m'accompagne? Est-ce que c'est ce Fils de Dieu Tout-Puissant? Ou? J'ai aucune idée. On ne le sait pas. Moi, j'assume. C'est dans cette direction-là où le doute surgit. Et ça va arriver. Quand dans l'avancement d'une situation, d'un projet, de quelque chose, le doute va arriver. Mais la question, ce qui est beau, c'est que est-ce que Jésus t'est inquiet? Jésus, il n'avait pas l'air inquiet, mais bien. Et c'est justement ça. Jésus, contrairement à moi, qui vis beaucoup d'anxiété, qui vit beaucoup d'inquiétude, Jésus, lui, Dieu n'est pas inquiet. Puis souvent, l'inquiétude venait du fait que je perds le contrôle, que je ne suis pas en contrôle, que mes stratégies, mes plans, mes devis, quoi que ce soit, ne se déroulent pas comme je veux. Puis il est fort probable qu'en Dieu, les plans ne se dérouleront pas nécessairement comme je veux. Et pour Dieu, quand Jésus a dit « Allons de l'autre bord », c'était sa volonté. Sa volonté d'aller de l'autre bord. Nous, en tant que famille, on est prêt à accomplir, à écouter et à accomplir la volonté de Dieu dans la tempête qui peut venir, dans les défis que ça peut susciter, dans la crainte que ça peut susciter en moi, dans les doutes que ça peut me susciter. Est-ce que je suis prêt à écouter et à accomplir la volonté de Dieu? C'est pas évident. Pas évident, frères et sœurs. Être à l'écoute de sa volonté en famille. Être à l'écoute de la volonté de Dieu. À l'école où j'enseigne, il y a une de mes collègues qui me racontait que... c'est une collègue qui vit dans une famille recomposée. Elle est allée vivre chez son conjoint qui a deux enfants. Et elle a deux enfants aussi. Donc, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que lui, il était lousse. Il était libéral sur plusieurs des choses que ses enfants faisaient. Et elle est très stricte sur l'éducation. Ne mange pas avant les repas. Et ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que là, il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas d'harmonie. Et elle a décidé, tiens, lors d'une discussion de salon de personnel, de dire, ah tiens, je vais faire un conseil de famille. Elle a tenu un conseil de famille durant lequel chacun a pu exposer, en particulier dans son cas, c'était les douches. à quel moment prendre les douches. Et moi, ça ne me dérange pas de prendre ma douche en deuxième. Moi, j'y prends moins longue, donc ça ne me dérange pas. Donc, chacun a pu partager son point de vue et ça a terminé dans une belle harmonie. Ça s'est terminé dans une belle harmonie, dans un qui et pour lequel elle a dit à son conjoint récalcitrant. Non, pas récalcitrant, c'est juste qu'il n'était pas comme ça. Il a dit, hey, il dit, continue de faire ça. Regarde comment ça a bien terminé. Regarde combien ça a bien terminé. Et donc, voyez-vous, ils ont découvert une volonté commune en consultation commune pour mieux travailler ensemble. Le Seigneur nous invite, nous autres aussi, à découvrir la volonté de Dieu, à écouter cette volonté-là et à l'accomplir, donc, en famille, ensemble. Et souvent, on est dans notre chaise, on est à part, on est dans nos vies, on est dans nos affaires, puis c'est comme... Puis on se rappelle du mouvement de l'Église jusqu'à parfois quand on est ensemble ou quand on est à l'Assemblée annuelle. Oh, c'est vrai, il faut que j'aille à l'Église. Oh, c'est vrai, il faudra qu'on prenne une décision. Mais ça devrait nous habiter, ça. Ça devrait nous habiter. Jésus devrait être constamment dans notre barque. Puis le Jésus qui a enseigné, qui a fait des miracles, ce Jésus-là devrait constamment être dans notre barque. Même s'il est assis sur son petit coussin, il ne dort jamais. Parce que quand il s'est levé pour parler, il a parlé. Quand il s'est levé pour parler, il a parlé. C'était le temps. Il a parlé. Donc, la question à se poser pour nous, alors que le défi de la traverse se présente devant nous, alors que le défi de l'identité se présente à nous. Donc, oui, quel est ce Jésus? Qui est ce Jésus pour moi qui veut m'amener à entreprendre cette grande traversée, ce grand défi de foi avec lui? Qui est Jésus pour moi? Est-ce que c'est comme les disciples, là, qui est donc cet homme? Est-ce qu'il est juste un homme à qui obéissent le vent et la mer? Ou est-ce que notre Jésus, c'est notre sauveur, c'est notre sanctificateur, notre guérisseur, notre roi qui revient, celui qui est tout-puissant, celui qui peut tout? Famille, je nous parle à nous, je nous le demande à nous, qui est notre Jésus? Puis est-ce qu'on a l'impression que, comme les disciples, réveille-toi, là, on va périr, on va mourir. On est en train de rencontrer un défi qu'on n'est pas capable de surmonter. Est-ce que tu veux peut-être penser à nous autres? Mais est-ce que Jésus s'inquiétait de quoi que ce soit, là? Le texte nous montre que Jésus ne s'inquiétait pas. Ne s'inquiétait pas. Moi, je m'inquiétais. Parce qu'on a probablement un groupe à garder ensemble, une famille à garder ensemble, on a probablement des finances à garder ensemble, on a probablement toutes sortes de choses à garder ensemble en tant que famille d'Église. Notre pasteur est là pour y penser. Et tous les mots et autres qui nous concernent. Je nous parle à nous en tant que famille. Là. Je nous parle à nous en tant que famille. Si on est dans la même barque, le Seigneur nous invite à inviter Jésus, mais le vrai Jésus, à s'asseoir avec nous, à flotter avec nous, puis à se rendre de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il y a un autre défi qu'on verra plus tard. Seigneur, j'aimerais... Selon ma montre à moi, il me reste quelques temps, mais je ne peux pas. Un petit peu. Okay. Hey, ça ne veut pas. Ça veut pas. Bon, il me reste 7 minutes. Bill nous a partagé concernant les défis Et comment, des fois, ça, il y a des choses qui viennent obstruer. Même chose pour Carline. Et je prétends, je soupçonne que c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous, pour plusieurs d'entre nous. Pour plusieurs d'entre nous. Je soupçonne aussi que, comme moi, parfois, je ne suis pas sûr que c'est le bon Jésus qui est assis dans la barque. Parce que je n'ai pas tout le temps confiance en sa capacité d'être Jésus. Parce que je fais confiance en ma capacité à moi. Donc, si mon Jésus, c'est moi, ça a des bonnes chances, fortes chances que je me lève dans la barque, qui n'est pas une bonne idée, quand il vente, et que je dis, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je péris? » Mais j'aimerais qu'on puisse juste, on va pencher nos têtes dans les prochaines années, parce que, dans les prochaines minutes, c'est-à-dire, je dis pas les prochaines années, mais c'est parce qu'on va se pencher nos têtes, et je vais inviter Marc tantôt, mais et parce qu'on va aller à la rencontre de celui qui a fait face à une grosse tempête dans sa vie sur la croix. À la croix, tout s'est déchiré. Tout s'est déchiré. La tempête a été forte à ce moment-là, a été grande, parce que Jésus mourait, donnait sa vie, pour la reprendre et revenir à la vie plus tard, la force de la résurrection. Mais en même temps, ça a été une tempête. Et penchons nos têtes et penchons-nous devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons ensemble venir vers toi. Pas seul, mais dans ces barques multiples qui accompagnaient Jésus en tant que famille. Te dire que, peut-être que j'ai accepté de vivre la traverse, d'aller l'autre bord. Et c'est peut-être possible aussi que je n'avais pas tout mesuré. Et qu'alors que se présente, une tempête ou que ce soit de l'environnement ou de moi-même, Seigneur, j'ai besoin de savoir que c'est le bon Jésus qui est assis avec moi. J'ai besoin de savoir que même si tu es assoupi, tu es en contrôle. Parce que tu n'es pas inquiet. Tu n'es inquiet de rien. Et Seigneur, en tant que famille, alors que nous voulons apprendre à connaître ta volonté, parce que c'était ta volonté d'aller de l'autre bord, alors que nous voulons apprendre à discerner ensemble ta volonté, à y marcher en se l'appropriant, fais-nous, Seigneur, ne pas craindre la tempête. Ça me rappelle un autre chant. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. Ne crains pas la tempête. Seigneur, mon cœur craint. Je suis fait de même, si tu veux. Mais je veux faire confiance à Jésus, assoupi sur son petit coussin, parce qu'il est en contrôle. C'est par Jésus qu'on prie ensemble, Seigneur Dieu. Amen.